Voici les titres du journal.
La gauche et la droite s'opposent aux coupes budgétaires dans les hôpitaux vaudois. Ils ont approuvé mardi un texte demandant au gouvernement de revoir les économies qui menacent des fermetures les pôles santé. Châteaudet accueille ce week-end la 24e édition du meeting international VV, un rendez-vous incontournable où plus d'un millier d'anciennes Volkswagen et des milliers de passionnés se retrouveront dans une ambiance Oktoberfest. Après 3 ans d'attente, la historique Hill Climb Olonvilla revient les 23 et 24 août pour sa 9e édition. Plus de 300 véhicules historiques et des légendes du sport mécanique seront de la partie entre passion et hommage à la légende écossaise Jim Clark. Et en athlétisme, Léonie Pointet a pris part à 2 courses hier soir à Athlétissima pour son baptême du feu en Diamond League. Elle a pu jauger l'écart qui la sépare encore des grandes stars.
Et pour la météo, un temps généralement sec dans la plaine du Chablais. Ce jeudi, ce sera plus humide sur la Riviera et l'entrée du Chablais. Et puis pour le retour du soleil, il est prévu demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Favre. Bonjour Valérie.
Bonjour. Les élus vaudois s'opposent à la politique d'austérité pour les hôpitaux du canton. Les partis de gauche et de droite faisaient front commun mardi au Grand Conseil pour demander au gouvernement de garantir l'accès aux soins de proximité dans tout le canton. Les députés ont approuvé à une large majorité la résolution de Céline Beau, députée UDC du Pays d'en Haut, qui demande la suspension des coupes budgétaires 2026 dans le secteur de la santé. Par cette prise de position unanime, l'élu contre-attaque pour protéger les établissements de santé et dénonce un manque de professionnalisme du Conseil d'État vaudois.
Par la façon qu'on a été traité, par un courrier envoyé au début des vacances, d'une façon absolument inadmissible, avec juste un petit coup de téléphone avant pour nous avertir qu'on allait le recevoir parce qu'il y avait eu des fuites dans les médias. On a attendu tout l'été pour pouvoir leur parler, et puis la meilleure façon de parler au Conseil d'État, c'est quand même de le faire au public.
De son côté, Maximilien Stauber, municipal chargé de la santé à Châteaudet, s'oppose aux 20 millions de francs d'économies proposés. Ces coupes impacteraient les hôpitaux ainsi que la population et occasionneraient la faillite du pôle santé du Pays d'en Haut, alerte le vice-président de l'institution.
La Vallée de Joux et le Pays d'en Haut sont traités de manière extrêmement dure, sans justification qui nous serait donnée par rapport à ça. Mais je maintiens, aujourd'hui, les capacités hospitalières dans ces régions de montagne sont importantes, non seulement parce qu'on est loin des hôpitaux suivants, mais en plus parce que c'est pas comme si on avait un surplus de lits hospitaliers en général dans le canton aujourd'hui. Donc d'en fermer simplement comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne solution dans l'absolu. Mais je crois qu'aujourd'hui, de toute manière, on n'a pas une très grande impression de ce qui se fait actuellement, ni sur la forme, ni sur le fond. Donc on va simplement le combattre.
Les négociations budgétaires commenceront ces prochaines semaines avec le Conseil d'État vaudois, alors que la mobilisation populaire en faveur de la santé s'organise à travers une pétition et une manifestation le 2 octobre à Lausanne. L'UDC vous rappelle que des économies sont également possibles en coupant dans l'administration cantonale, un sujet d'Anthony Dacampo.
Et on reste dans le Pays d'en Haut, le 24e meeting international VV revient à Châteaudet dès demain et jusqu'à dimanche.
Près de 1300 Volkswagen anciennes venues de toute l'Europe sont attendues dans une ambiance placée sous le signe de l'Oktoberfest. Cette année, outre les nombreuses coccinelles qui seront de la partie, une exposition spéciale sera dédiée aux 75 ans du fameux bus T3, un modèle emblématique de la marque allemande qui a pris de plus en plus de place au sein du meeting de Châteaudet, comme nous le précise Raphaël Granger, président du comité d'organisation.
Alors c'est vrai qu'il a repris, on a des statistiques où avant on avait une majorité de coccinelles, maintenant les bus avec la tendance van life, je dirais que le bus Volkswagen était le van life de l'origine, et maintenant il y a nouveau cette tendance, et du coup ça a pris beaucoup de place, donc on en a de plus en plus, et c'est vrai que c'est quand même plus pratique de passer un week-end dans un bus que dans une coccinelle, il y a plus de place, et ça matche bien avec l'environnement, l'ambiance de la manifestation. Donc il y a des véhicules qui viennent uniquement pour exposer, vraiment des véhicules de collection, et d'autres qui viennent, qui sont non seulement des véhicules de collection, mais des véhicules à vivre, et c'est ça qui est vraiment intéressant.
L'événement d'Amounet qui se tient durant tout le week-end devrait attirer jusqu'à 10 000 personnes, un sujet de Ludovic Turin.
Les moteurs s'apprêtent à rugir entre Olon et Villars.
Après 3 ans d'attente, la mythique Historic Hill Climb revient sur le week-end pour sa 9e édition. Un rendez-vous placé sous le signe d'un hommage à Jim Clark, la légende écossaise de la course automobile. Plus de 300 véhicules d'époque, monoplace, sport proto, moto et sidecar défileront sur la route historique. De quoi se remémorer les années 60 lorsque la course était un rendez-vous prestigieux en Europe et accueillait jusqu'à 40 000 spectateurs. Si l'épreuve continue d'être liée à ce glorieux passé, son format a aujourd'hui quelque peu changé, comme nous le précise Jean-Luc Ronqui, responsable relations publiques au sein du comité d'organisation.
Alors ce qui change déjà, c'est qu'effectivement c'est une montée historique, Donc il n'y a pas de chronomètre, donc c'est plus du tout une course, c'est plus une compétition, mais c'est plus en fait une rétrospective qui permet à plein de personnes de voir des voitures et des motos et des cycars des années de la course. Donc c'est un espèce de grand musée qu'on pourra découvrir soit à Hollande avant le départ, soit à Villars après l'arrivée. Ce qu'on garde de tout ça, c'est qu'il y a des voitures qui vont monter Hollande-Villars et qui ont participé à l'époque à la course, avec l'odeur et le bruit qui l'accompagnent.
Pour les passionnés, il s'agira d'un véritable musée vivant qui fera également la part belle à plusieurs légendes du sport motorisé. L'événement pourra compter en effet sur la présence de grands noms, comme l'Italien Giacomo Agostini ou encore l'Américain Freddy Spencer. Jean-Luc Ronchi explique comment attirer des stars de ce calibre.
C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui devient presque un travail d'amitié avec ses pilotes. Et il y a des gens très influents par rapport à la moto. Je vais citer Alain Neff qui a fait un travail extraordinaire durant bien des années pour pouvoir attirer le roi Ago. Il était déjà venu en 2022, si on se souvient. Freddy Spencer était déjà aussi venu en 2017. On a réussi à les faire revenir parce que justement, il y a tout ce travail du comité et en particulier du responsable des motos qui permet de réserver ces gens et de pouvoir avoir le privilège les avoir.
Rendez-vous donc samedi et dimanche entre Hollande et Villars pour la 9e édition de l'historique Hing Climb, un sujet de Ludovic Turin. Le nombre de féminicides en Suisse atteint des records cette année avec 22 cas. Les mesures d'urgence prises en juin ne suffisent pas encore, déplore aujourd'hui Elisabeth Baumschneider. Les femmes et les enfants ne sont malheureusement pas en sécurité en cas de crise. Elle s'exprimait au surlendemain de la mort d'une femme de 47 ans et de ses deux filles de 10 et 3 ans et demi à Corcelles. Les victimes ont été tuées par leur père et ex-époux. Le numéro d'urgence 142 pour les victimes de violences domestiques doit entrer en vigueur l'année prochaine. En outre, une campagne commencera en novembre pour informer les personnes concernées des possibilités qui leur sont offertes, a ajouté la jurassienne.
Les Suisses envoient moins de lettres et font moins d'opérations au guichet.
Ce qui pèse sur les finances de La Poste, le géant jaune a présenté les chiffres du premier semestre ce matin à Berne. Le résultat d'exploitation reste positif à 118 millions de francs, mais il est en baisse de 29% par rapport à la même période l'an dernier. Les coûts augmentent et les nouveaux services numériques ne sont pas encore rentables. Les explications du directeur général ad intérim de La Poste, Alex Glantzmann.
Ça dure assez de temps pour aussi gagner de l'argent dans le monde numérique. C'est aussi un projet de génération. Si on regarde sur le e-voting ou le e-health, ça dure longtemps. Et aussi avec les exigences des lois et les régulations, il doit là avoir des circonstances qui nous aident pour faire ces prestations numériques.
Justement, vous pensez que la révision de la loi sur la poste que prévoit le Conseil fédéral va dans la bonne direction?
Oui, je pense que c'est très important qu'on va avoir la discussion. Pourquoi est-ce que le son futur est encore là, quelles sont les prestations qu'il doit nous donner. Je pense que c'est aussi important, si on regarde le système de poste en global, qu'on ne fait pas des mesures qui sont dans un domaine et qu'on dit qu'on ne doit pas faire les prestations dans ce domaine, mais il nous faut une vue globale, qu'est-ce que le futur de la poste, quel est le service universel qui nous aide et qui nous aide aux sociétés, aux économies.
Des propos recueillis par notre correspondante parlementaire Marie Vieux-Mier. La Poste va continuer de transformer ses filiales et développer de nouvelles offres numériques. Elle prévoit aussi une réorganisation des unités centrales du réseau postal qui pourrait conduire à la suppression d'une centaine de postes de travail. À l'étranger, l'Antarctique semble soumis à une série de changements abrupts qui se renforcent mutuellement aux conséquences potentiellement catastrophiques pour le monde entier, alertent des chercheurs dans une étude publiée hier dans la revue Nature. Les preuves de ces changements sont le recul de la banquise, le ralentissement d'un courant océanique, la fonte de la calotte glaciaire et la menace pour certaines espèces comme les manchots empereurs. De son côté, la fonte de la calotte glaciaire de l'ouest de l'Antarctique augmentera les niveaux des océans, un phénomène susceptible de s'étendre sur des siècles et qui perdurera même si le climat se stabilise. Cette zone de l'Antarctique contient suffisamment d'eau gelée pour faire monter le niveau des océans de la planète d'environ 6 mètres. Léonie Pointet a vécu une soirée qu'elle n'oubliera pas de sitôt. La sprinteuse de Genny a préparé hier à sa première manche de la Diamond League, la compétition phare du monde de l'athlétisme, qui plus est à Athlétissima, tout près de chez elle. Sous des trompes d'eau, la jeune femme de 24 ans a même eu le bonheur de s'aligner sur deux disciplines, le relais 4x100 mètres et le 200 mètres. Sur cette course individuelle, la Genouilloise s'était lancée aux côtés de noms tels que ceux de Marie-Josée Talou-Smith, Brittany Brown ou encore Daryl Neita. Une adversité qui l'a quelque peu déstabilisée, Léonie Pointet.
Un peu syndrome de l'imposteur quand même, mais il faut essayer de ne pas y penser. Et j'avais le même sentiment à Lucerne, j'ai gagné. J'ai essayé de mettre dans le même état d'esprit. Après, c'était encore un step au-dessus, mais c'est bien aussi de pouvoir courir avec des filles fortes comme ça pour se préparer pour Tokyo. Toute la journée aussi à la cool room, j'étais hyper stressée, j'avais peur, j'avais un peu peur d'elles. Puis elles avaient peur de leur make-up et puis de leurs fossiles qui tombent avec la pluie. Donc là, je me suis vraiment dit, Brie, il y a un step encore. Mais après, une fois que je suis dans le bloc, c'est ma course et il faut faire le travail que je sais faire.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Léonie Pointet participera ce week-end aux 200 mètres des championnats suisses à Frauenfeld. Elle tentera d'y assurer sa qualification pour les mondiaux de Tokyo qui commenceront le 13 septembre prochain.
En football, le FC Monté connaît une entame de championnat idéale.
Le déjà vainqueur à Cofrane il y a 10 jours, les Rouges et Noirs ont récidivé hier soir à domicile face à Échallon sur le score de 3-1. L'attaquant Mersim Aslani s'est offert un triplé face à une formation qui devrait jouer les premiers rôles cette année en Première Ligue. Si le résultat est flatteur, la partie fut serrée et l'entraîneur des Chablaisiens, Cédric Stram, n'en était pas vraiment satisfait.
D'un point de vue comptable, oui, c'est satisfaisant. Après les deux goals qu'on prend, il m'exaspère un peu, hein. D'autant plus pas le premier à Cofrane, mais ce soir quand on se compte 10, qu'on fait rentrer des joueurs frais, on doit être beaucoup plus solide que ça et pas prendre le goal à 3-0.
Samedi déjà, il y a une nouvelle rencontre face à Chénois. Comment est-ce qu'on prépare justement les organismes quand on n'a pas des professionnels en face de soi pour jouer deux matchs en 72 heures?
Bon, on récupère mieux quand on gagne les matchs, ça c'est clair. Donc voilà, ils ont beaucoup de vécu aussi, pas mal d'expérience. Puis les anciens apprennent aussi aux plus jeunes qu'il faut soigner, il faut faire un entraînement personnel derrière chacun à la maison.
Cédric Stram répondait à Lionel Pataroni.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.